Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic vous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec ce soir le football et le Toulouse Football Club. Enfin, nous recevrons Jordan Cortegiani, joueur des Spacers de Toulouse. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Lucas Serdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Et Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Messieurs, bonsoir.
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 Alors,
on a un petit problème de micro.
On a toujours le même.
Je vous laisse 30 secondes,
allez-y,
d'accord ? On se reprend juste après.
Allez-y. Messieurs, je me tourne vers Mehdi et vers vous, Maxime. Comment ouais. allez-vous en ce lundi de mars ?
En pleine forme. Surtout pleine que forme. Là, la salle de l'émission est super bien décorée, je trouve.
Elle est bien décorée. Elle est fantastique.
C'est magnifique.
J'allais dire, on est accompagnés. On n'est pas seulement 5 ouais. autour de la table, on est même 7.
On va l'expliquer à nos auditeurs. Ouais. Voilà, il y a nos confrères de TF1 et Téléfoot avec Grégoire Margoton, qu'on avait reçu il y a quelques semaines, ont mis un reportage sur les Restos du Cœur, sur Didier Deschamps et Kylian Mbappé qui sont allés aux Restos du Cœur, un peu comme tous les ans, il y a des sportifs qui viennent. Et là, on parle souvent de Joséphine Ange Gardien, on parle souvent de Kylian Mbappé.
Et voilà, les deux passions de Jean.
Quoi de mieux que d'avoir devant nous dans les studios une photo de
j'avoue.
Mimi Mati et
Kylian
Mbappé.
Kiki et Mimi, c'est un peu le summum pour
ouais,
vous.
Pour Jean,
on est sur quelque chose.
Moi, c'est le Graal. Ouais. Ouais. Si vous voulez me faire plaisir.
Le plus grand et la plus grande. Quoi.
Voilà, faites un t-shirt.
Et pour autant, ça va pas du tout ensemble. Quoi. Ça me fait penser à un mélange chips Nutella ou je sais pas, ou boire de la bière mélangée avec du jus de pomme. Tu vois, c'est assez étrange comme mélange. Je sais pas. Mais après, je reconnais. Après, je vous vois sourire, Jean, donc je suis content. Ça me fait plaisir, quoi. Je souris en même temps. Ouais, voilà.
Ouais. Mehdi, je vais en rigoler. C'est quand même beau, le portrait est beau.
C'est complètement. Je sais pas quoi en dire. Honnêtement, j'ai vu ouais. ça, je ne sais absolument pas quoi.
Franchement, beau demande, c'est quoi. Pas l'adjectif qui correspond le mieux.
Non, non. La rencontre de deux univers et ça donne ça.
On va
c'est les enfoirés.
On va demander à notre invité, ouais. joueur des Spacers de Toulouse, Jordan Cortegiani. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors,
c'est pas sympa comme entrée en matière, franchement.
Elle est belle la photo quand même.
Non, maintenant, c'est un grand plaisir de pouvoir rencontrer ces deux personnes aujourd'hui, ce soir. Ouais. C'est vrai que c'est, vrai. C'est un mélange plutôt atypique.
Ouais. C'est pas commun. C'est pas commun.
Non.
Bon, on
va pas
là.
Faire l'émission sur Kiki et Mimi.
On s'arrête là.
Oui, je pense.
On s'arrête là. Allez, ouais. J'espère que vous êtes prêts, messieurs. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez, vous avez l'habitude d'un événement qui vous a marqué. Cette semaine, on va dire que vous êtes content. Il y a deux coups de cœur, un coup de gueule. On va commencer avec vous, Mehdi Guillonneau. On va commencer sur le coup de gueule. Comme ça, c'est fait.
C'est fait.
Il y a Mimi Mati, il y a Kylian Mbappé dans le studio. Donc, il faut terminer par des coups de cœur.
Bah, bien
donc,
sûr.
On commence avec vous. On va partir aux États-Unis pour parler de basket et de NBA.
Et ouais, on va parler des Lakers, l'équipe de LeBron James qui n'ira pas en playoff, sauf miracle. Parce qu'à 19 matchs de la fin, ils ont 5 victoires de retard sur le 7e et le 8e, qui sont les Clippers et les San Antonio Spurs. Alors, il y a plusieurs explications à tout ça.
C'est bizarre quand même. C'est pas commun.
Bah, pour placer le truc, par exemple, une équipe de LeBron James a été 8 fois en finale d'affilée. Les 8 dernières éditions, il a toujours été en finale. Et 13 fois en playoff. Pareil, les 13 dernières années, il a toujours été en playoff. Donc, c'est une anomalie, même s'il est très peu entouré aux Lakers, c'est une anomalie. Il y a eu plusieurs choses durant la saison. Tout allait bien jusqu'à Noël, il s'est blessé. Ils ont joué sans lui pendant 18 matchs, ça a été la dégringolade. Quand il est revenu, on s'est dit que tout allait mieux, sauf qu'il y a eu une rumeur de transfert avec un autre gros joueur qui s'appelle Anthony Davis. Et les rumeurs sont sorties dans la presse, les joueurs ont appris qu'en fait, il y a la moitié de l'effectif qui était transférable. Et il y a eu un impact psychologique sur l'effectif. Et à la deadline du 7 février, le transfert ne s'est pas fait, mais les séquelles sont encore là. Et on voit que LeBron n'arrive plus à rassembler autour de lui. Et l'équipe ne tourne toujours pas. Il n'ira sûrement pas en playoff.
Mmh. Maxime Brossard, c'est quand même incroyable.
Ouais, incroyable. Pas forcément. Parce qu'après, derrière, il n'y a pas non plus des joueurs de grande qualité. Quoi. Après, ce qui est dommage, si, c'est qu'en fait, il y a des jeunes qui ont un fort potentiel. Je pense à Kuzma, à Ball ou à Ingram, qui avait été drafté en numéro 2, je crois, il y a 2 ans. Mais le truc, c'est qu'en fait, ces mecs-là, ils n'ont pas réussi à prendre leur chance, quoi, en fait. Et je trouve que ce qui est dommage, en fait, c'est qu'ils auraient peut-être pu se caler sur ce qu'a fait Boston, par exemple, quoi. Quand Kyrie Irving est absent, l'équipe tourne peut-être mieux, en fait, finalement. Quand un joueur qui concentre tous les ballons, comme ça, les jeunes réussissent à exprimer pleinement leur potentiel, ce que les Lakers n'ont pas réussi à faire. Et moi je dis qu'en fait ils n'ont pas forcément une équipe super justement à cause de ça, parce que je pense qu'un mec comme Ball par exemple, tout le monde en parle, avec son père qui est complètement fou aussi, là c'est une autre histoire.
Il est trop irrégulier, lui.
Mais c'est trop irrégulier. Ingram pareil, je trouve il n'est pas à la hauteur des attentes, enfin bah, on a beaucoup déçu.
Moi j'ai envie de dire bien fait pour les Lakers, franchement ils ont été tentés de forcer le passage qui s'était jamais vu en NBA, enfin c'est l'agent de LeBron James qui est bien connu pour avoir des méthodes un petit peu douteuses, qui a fait faire à Anthony Davis une sortie dans la presse clairement destinée à son club des Pelicans pour qu'il rejoigne les Lakers. Ça a complètement déséquilibré effectivement une équipe qui tournait franchement pas mal avant ça, vraiment pas mal, c'est-à-dire que les jeunes justement s'aggloméraient bien autour de LeBron James, l'aidaient bien, effectivement il y a des bons joueurs, franchement LeBron James a envoyé des équipes beaucoup plus faibles en finale,
exactement,
vraiment
le
truc c'est qu'ils ont été effectivement complètement démobilisés. En même temps, quand on apprend que pourrait très bien 5 joueurs voire 6 joueurs valent un joueur en retour, c'est quand même déstabilisant.
Parce que
c'est ce qui était promis aux Lakers.
C'est la faute à qui, Mehdi Guiono, ce qui se passe actuellement aux Lakers? Les dirigeants ou les joueurs, ils sont quand même pour quelque chose.
Il y a des dirigeants, mais il y a aussi une chose, c'est la personnalité aussi. Il y a des choses qui reviennent sur la personnalité de LeBron James. C'est-à-dire que ce mec-là veut tellement tout contrôler. Parce que ce n'est pas qu'un basketteur, en fait, c'est un businessman, c'est un mec qui est capable de contrôler un effectif, ce qu'il faisait à Cleveland. C'est pour ça que ça se passait bien, parce qu'il maîtrisait tout. Et ce qu'il a peut-être un peu plus de mal à faire aux Lakers, c'est. Voilà, après, il y a aussi des petites choses, il est peut-être moins la tête au basket. Il y a pas mal d'insiders, comme ils appellent aux États-Unis, qui disent qu'il va un petit peu moins à la muscu, mais qu'il va un petit peu plus à la plage.
Ah, mais c'est la vie à Los Angeles, ça, c'est normal.
C'est possible.
Lucas Sardé, vous êtes d'accord?
Oui, non, c'est possible que LeBron James se relâche un petit peu, effectivement. Mais quand bien même, moi, j'ai envie de mettre la faute sur les dirigeants des Lakers. C'est un club qui a brillé par sa gestion pendant longtemps, mais là, clairement, ils ont fait une grosse
titré.
Oui, ils ont fait une grosse faute en ne faisant pas confiance en leurs jeunes, en tout cas en affichant à ce point-là qu'ils ne leur faisaient pas confiance.
Et le paye aujourd'hui, Mehdi Guiono, pour terminer.
Match de la dernière chance ce soir face aux Clippers, donc l'autre équipe de Los Angeles.
Qui va pas si bien que ça non plus, en plus. Hein.
Qui a regagné cette nuit, et voilà, qui se bat, qui est une équipe qui se bat, vraiment deux équipes totalement différentes. Donc match de la dernière chance cette nuit, et je pense que si ce soir ça perd, je pense que vraiment on peut totalement oublier les playoffs. Pour les Lakers.
Yep.
On va changer de sport, on va garder le ballon bien évidemment, on va le mettre un peu plus ovale, on va partir avec vous, vers vous Maxime Brossard.
Retour aux fondamentaux quoi.
Voilà, c'est
exactement,
ça.
On va parler de rugby. Alors, malgré le très beau succès, on va en parler tout à l'heure du stade toulousain, on va parler de la Pro D2 et d'une fin de saison complètement folle qui s'annonce.
Oui, voilà, en fait, moi je voulais faire un petit clin d'œil à la Pro D2. C'est finalement, il y a du suspense tant pour le titre que pour la qualification, que pour la descente. D'ailleurs, j'ai noté un peu les trois équipes de tête, donc Nevers, Bayonne et Oyonnax. Nevers et Bayonne qui sont à égalité de points et Oyo qui a un point. Puis ensuite, il y a une course folle aussi pour savoir qui va être donc dans les 6 premiers, avec donc Brive, Béziers, Mont-de-Marsan et Provence, qui est un peu la surprise et qui sont à la lutte. Mais il faut se méfier aussi d'une équipe comme Soyo, qui est allé gagner à Provence justement. Donc ça montre aussi qu'il y a vraiment des coups de tonnerre, des rebondissements, on n'est jamais serein. Par exemple, la semaine dernière, Colomiers était hors de la zone de relégation. Là, ils ont perdu et ils se retrouvent de nouveau 15e. On a vu aussi un super match que j'ai commenté, qui était donc je ne m'attendais pas à un tel résultat. C'était le match entre Bourg-en-Bresse et Brive, avec un essai de Bourg à la dernière minute. C'était hallucinant, ils ont réussi à renverser la tendance. Et donc,
ça va faire mal, cette victoire pour Colomiers, peut-être.
Ouais, va faire très mal. Et donc... Il reste 16 journées avant la fin, donc si on se calque vraiment sur Colomé, il y a encore de la marge pour pouvoir s'en sortir, je pense. Mais dans l'ensemble, c'est ça que je voulais noter, c'est vraiment le suspense de cette Pro D2 qui est vraiment captivante.
Et il y a une bataille, c'est le Nord contre le Sud.
Mais bien sûr, genre, là, c'est pas possible. Quoi. Déjà, quand je vois les trois premiers, Nevers, Oyonnax, et qu'il n'y a que Bayonne...
Vous avez mal au ventre, là.
Mais oui, et le pire, c'est la descente. Imaginez Colomiers qui descend, parce que bon, Massy, à mon avis, c'est terminé. Là c'est plus possible quoi. Déjà vous avez Dax qui est tombé, Tarbes qui en plus à mon avis est pas bien, Hoche qui est un monument qui a complètement disparu.
Ouais,
maintenant
il y a Albi qui va remonter.
Oh, je me méfie parce que quand vous regardez Rouen qui à mon avis est le grand favori de la Fédérale 1, je vois bien encore une domination des équipes du Nord là, dans ces années à venir. Donc voilà, sudiste, réveillez-vous quoi.
Ouais, mais l'expérience peut-être au moment des phases finales va faire la différence, parce qu'aujourd'hui, on l'a bien dit la semaine dernière, oui. Hein, le premier de Pro D2 ne monte plus systématiquement, non. Il y a encore des phases finales à gagner, oui. et tout, et mine de rien, l'expérience, ils ne l'ont pas encore.
Hein.
Ils ont
Bayonne,
les joueurs, ils ont les effectifs, mais...
L'expérience Nevers, c'est un peu la surprise, c'est vrai.
Vous espérez Bayonne ou Oyonnax, quoi.
Ah non, moi Bayonne à 100%, Bayonne. Ouais. Oyonnax, c'est bon, ils font que l'ascenseur à chaque fois, au bout d'un moment, il va falloir les interdire, ou créer un championnat intermédiaire avec Grenoble et tout ça, là. Un truc régional.
Le retour des poules géographiques.
Ouais, voilà, l'ancienne, là, voilà.
On sent le sudiste quand même, Lucas Cerdic, hein.
Je me tourne... Heureusement qu'il y en a encore des comme lui, hein. Franchement,
il en faut.
Il faut défendre.
Bien sûr, bien sûr. Il a raison.
Ça va partir
c'est vrai, c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être à tort, je ne sais pas, il y a certains clubs du Nord qui font quand même de bonnes choses. Moi, je me réjouis de voir un club comme Vannes, par exemple, en Pro D2. Je me réjouis de voir un club comme Soyeux Angoulême, parce que je trouve que le Charentais comme Breton ont un état d'esprit voilà, qui colle bien. Après, il y en a d'autres, peut-être. Bon,
c'est des surprises. Voilà, c'est des surprises. C'est pas immérité, hein, c'est juste que ça m'embête. Quoi. Un peu chômeur, en ce
on verra ça en fin de saison. On compte sur vous, Maxime Brossard, Lucas Cerdic. Gardez la parole. Votre coup de cœur, on va parler tennis et bien évidemment de la légende, Roger Federer.
Ouais, cœur sur Roger, quand même.
Il y aura Gaël, mon fils, mais on commence par Roger.
Il y aura Gaël, parce qu'il nous étonne vraiment agréablement. Mais effectivement, Roger, le 100e titre. Je sais pas, j'ai tout dit, non ?
Il a 7 titres du record.
Il a 9. C'est le 109 Jimmy Connors. Il est au 100e et ce que j'ai bien aimé, il n'y a eu que des bonnes nouvelles. Effectivement, il a gagné. Il a pris sa revanche sur Tsitsipas en finale, celui qu'il avait éliminé à Melbourne. Le petit jeune qui monte et qui monte très bien et qui va être très bon. Mais bon, voilà, l'écart d'âge, on avait quasiment le double sur le terrain entre un mec de 19 ans et un mec de 37 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et voilà, il a été en plus aérien. Enfin... On dirait vraiment quand il joue qu'il ne fait pas d'efforts, et moi je me remettrai jamais de voir ça. Il a annoncé en plus qu'il reviendra l'année prochaine, donc là.
Jusqu'en 2020, donc c'est
magnifique nouvelle.
C'est
qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que ça? Ça veut dire que si on le voit à Roland Garros, ce sera peut-être pas la dernière fois. Si on le voit à Wimbledon, ce sera peut-être pas la dernière fois. En même temps, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il revienne pas en Australie, qui est encore une fois
c'est
un grand
chelem.
C'est ce que j'avais dit la dernière fois, parce que vraiment je le pense. Et je le vois pas dire au revoir, ne pas dire au revoir plutôt
moi,
à l'Australie.
Je pense qu'il va tenir Melbourne. Jusqu'au JO. Moi.
Oui, c'est possible. Mais voilà.
C'est le seul titre qui lui manque d'ailleurs.
Tout à fait. Tout à fait, en individuel en tout cas. Mais c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Il a dit en plus, on lui reproche des fois de ne pas trop jouer en dehors des grands chelems sans titre. Ça met tout le monde d'accord. S'il ne jouait pas trop en dehors des grands chelems, bah, les sans titre, il en serait loin. Voilà, et puis bon, bah, Gaël, mon fils, parce qu'il nous étonne. Hein. Il a fait une série de matchs sans défaite hallucinante. Il a gagné un ATP 500, ce qu'il n'avait jamais fait la semaine dernière.
Il a fait deux bonnes semaines.
Il a fait deux excellentes semaines. Il est cinquième à la race. Hein. La race, c'est le classement qui prend en compte. Qui démarre du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. 5e à la race, Lucas Pouille est 7e, c'est-à-dire qu'on a deux Français pour l'instant parmi les 8 meilleurs joueurs de ce début d'année. Et quand on se souvient comment l'année 2018 s'est terminée, on n'aurait pas misé beaucoup là-dessus.
Je me tourne vers notre invité, pardon, Jordan. Vous, le sportif de haut niveau, voir les performances de Roger Federer, on peut que s'incliner.
Ah oui, bah, de toute façon, je pense que même si on n'est pas sportif, on peut s'incliner devant sa longévité et sa capacité à chaque fois à surprendre et à gagner encore et encore. Je pense que on a tous vu, ça a fait les gros titres. C'est impressionnant encore à l'âge qu'il a de pouvoir dominer des joueurs plus jeunes qui sont dans la force de l'âge. Et on peut se dire, il n'arrivera pas, il va peut-être marquer un moment calé. Et en fait, non, il est toujours là et son jeu évolue aussi avec, avec le temps. Donc,
en plus, oui, c'est vrai.
C'est assez impressionnant de le voir jouer, et assez beau finalement de le voir jouer au final.
C'est vrai qu'il ne reste pas sur ses acquis, il se remet en question, il est capable, de proposer de nouvelles choses, et ça, c'est remarquable.
Je pense qu'il ne peut pas en fait, rester sur ses acquis. Il est obligé d'évoluer, le jeu évolue, ça va de plus en plus vite.
C'est vrai.
Et donc, il est obligé
mais il va toujours plus vite que les autres.
Ouais, c'est ça. Il a un coup d'avance aussi, je pense, à chaque fois.
Et vous, à 37 ans, vous serez encore sur les, sur les terrains.
À 37 ans, je serai sur des terrains. Je ne sais pas si ce seront des terrains de sport.
En tant que coach.
Peut-être des terrains de beuverie et autres. Non, je ne sais pas.
Ou en tant que coach, peut-être.
Mais 37 ans, non, voler 37 ans, c'est compliqué.
C'est On en parlera tout à l'heure hein, dans la deuxième partie de l'émission avec vous pour parler des Spacers et du volleyball. Nous, on se retrouve dans un peu moins de 4 minutes avec la chronique santé. À tout de suite.
Portez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé avec vous, Didier Rubio, comme tous les lundis. Cette semaine, on va parler de la préparation spécifique à la course à pied. Tout simplement, est-ce qu'il y a une alimentation particulière avant de faire une course ?
Bonsoir Jean. Alors, on va rentrer dans les alimentations spécifiques aux sportifs, du coup.
Exactement.
Et alors, pour la course à pied, tout dépend, évidemment, de quel type de course à pied. Parce que si on est sur du demi-fond ou du sprint...
Ça varie selon la course. Ça,
voilà, c'est-à-dire que dès que l'on va arriver quand même dans des zones d'endurance, c'est-à-dire à partir de, pourquoi pas, un marathon ou plus long, ça dépend des individus évidemment, parce que celui qui va le courir à une vitesse, celui qui met 2 heures au marathon, je pense qu'il se prépare, mais pas de la même façon que celui qui va mettre 4 à 5.
Comme moi par exemple.
Courant deux heures.
Moi, en 2h10.
2h10. Ah, j'ai les chances de vous battre alors. du coup, si on prend par exemple des épreuves d'endurance, il y a quelque chose qui est important, c'est quand même d'emmagasiner un petit peu de glycogène. Glycogène, c'est une molécule qui va se loger dans le foie et dans les muscles qui vont travailler, donc, en l'occurrence les jambes. Cette énergie, hein, qui est un sucre, ne va pas pouvoir durer plus de, généralement, 180 minutes, donc ça fait 3 heures. Donc quelqu'un qui va courir un marathon en 4 heures, il aura forcément besoin de manger pendant la course. Mais s'il s'est bien préparé et qu'il a des réserves maximales de glycogène, au moins, c'est quand même quelque chose qui va fournir de l'énergie pendant la course. Donc, comment se préparer ? Il faut imaginer que 2 à 3 jours avant l'épreuve, on va parler d'un marathon par exemple, on va augmenter les apports en glucides, donc en sucre. Donc on va augmenter les apports.
2-3 jours, hein, c'est ça.
Oui, hein, c'est 2-3 jours. 2-3 jours avant. Au moins 2 jours, 3 jours, c'est mieux.
On mange un peu plus consistant, un peu plus élevé, c'est plus fort en quantité, c'est ça ?
Et alors, pas tout à fait, Jean, parce que sur le plan calorique, ça peut rester de la même chose. Mmh. Mais c'est une histoire de curseur, un peu à la manière dont vous maniez votre tablette, là. Mmh. C'est-à-dire qu'on va diminuer un petit peu le gras. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement besoin de manger très gras, des choses, des viandes grasses ou autres. Mais par contre, la part des féculents, par exemple, va augmenter. La part des glucides, par exemple, comme la confiture, le miel, quelques biscuits, de la compote, du pain, pourquoi pas des jus de fruits. Bien sûr, les pâtes, le riz, les féculents, cette part-là va augmenter. Et de fait, pour arriver à au moins, par exemple, quelqu'un qui pèserait 70 kg, il lui faut au moins 500 à 600 grammes de glucides par jour. Donc ça, c'est pas avec une alimentation dite classique de tous les jours qu'on y arrive. Il faut réellement augmenter cette part de glucides et augmenter également l'hydratation en même temps. Si on avait l'habitude de boire 1,5 litre, certainement arriver à 2,5 litres, 3 litres par jour.
Il faut vraiment doubler, quoi.
Quasiment, Jean, quasiment, alors qu'on s'entraîne peu. C'est paradoxal, mais l'idée, c'est de mettre du... C'est comme quand on va mettre de l'essence, hein. Il faut réellement gonfler le réservoir, là, et mettre de l'énergie en réserve.
Et comme ça, ce sera plus simple pour la course.
Et c'est plus simple pour la course, ça permet de se garantir au moins cette énergie-là et pas être obligé d'aller l'amener sur soi ou... Voilà.
Vous avez parlé qu'on peut manger pendant la course. C'est conseillé ou pas ?
Ben, c'est conseillé, c'est que surtout ça va être nécessaire, quoi. C'est-à-dire que
c'est une obligation quasiment.
Ben, sauf pour quelqu'un, je disais, qui va courir,
qui est vraiment entraîné,
au niveau du 10 000 ou au niveau du semi. Bon, les gens qui vont très vite, ils vont très peu s'alimenter, voire même pas du tout. Juste les ravitaillements avec l'hydratation. Mais quelqu'un qui va mettre 2h30, 3h, ou après sur marathon 4h, 5h. Et maintenant, on voit de plus en plus de courses longues, hein, 100 km, des trails très longs. Hein.
C'est horrible.
Ben,
c'est horrible.
Ouais, c'est long.
On le fera avec un chroniqueur, Lucas Serdi. Hein, on le promet, on va essayer de le faire. On n'y arrivera pas, on va faire 3 minutes et c'est réglé. On sera couché juste après.
Super, mais avec grand plaisir, on pourra parler de toutes ces épreuves qui nécessitent cette fois-ci de s'alimenter pendant 100 km.
Là, c'est une obligation. Parce que sinon,
C'est une obligation, ouais, tout à fait.
Sinon,
tout à fait.
Didier Rubio, merci beaucoup.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic. Et juste avant de commencer, j'ai oublié, je m'en excuse, des nouvelles de Dilali Bedrani qu'on avait reçu nous en studio, l'athlète qui a fini malheureusement et heureusement, parce qu'il est content, on l'a eu au téléphone tout à l'heure, il a fini 4e du 3000 en championnat d'Europe en salle. Il n'a pas de regret, il a fait une bonne préparation pour le championnat de France de cross ce week-end, ce sera à Vittel. Donc félicitations à Dilali Bedrani, pardon, et merde pour ce week-end. Donc voilà,
toujours aussi gros.
Mais non, c'est dans le sport. Même, hein. C'est dans le sport. Comme ça, on lui souhaite bonne chance.
Voilà.
Lucas Serdic, l'agenda de la semaine.
Oui.
Et on va parler comme d'habitude avec le. On va partir sur le top 14.
Ouais, le top 14, mais il y a pas de match au week-end. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler des résultats du week-end dernier et notamment résultats des pronostics. Et vous allez être encore bien mis en valeur, Monsieur Sureda.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. On avait, pour rappel, pronostiqué sur le match entre les deux stades, hein, Stade Français, Stade Toulousain. Magnifique victoire de nos Toulousains que moi-même, à laquelle moi-même je ne croyais pas. 28-9. Donc effectivement, Jean et moi qui avions pronostiqué pronostiquer une défaite.
Voilà. Je n'ai pas gagné un pari depuis septembre.
C'est ça. Maxime Brossard, lui, par contre, a encore vu juste. Hein, il avait pronostiqué une victoire 21-14. Donc, bravo, Maxime. Et les deux lauréats, parce qu'il y a une égalité aujourd'hui. Si on suit, en tout cas, à l'écart.
Oui.
Timothée et Coraline, puisque Timothée avait... pronostiqué 22-11 et Coraline 40-13, donc c'est à peu près c'est kiff-kiff, on va dire. Je vous ferai un cours de maths plus tard pour vous expliquer pourquoi c'est kiff-kiff, mais là ça n'a aucun intérêt.
Ouais. Et cette semaine, on va parier sur
Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que on peut faire ce que vous voulez.
Il y a un joli Toulouse-Guingamp, on en parlera.
Oula. Joli, je ne sais pas, mais important certainement.
Oula, ouais.
On en parlera tout à l'heure. Toulouse-Guingamp. Alors, pour parler des autres matchs qui nous intéressaient, Castres a fait un joli coup en s'imposant à Lyon, qui avait été invaincu. Jusque-là sur sa pelouse, 23-15. Castres qui remonte dans le top 6 à la 5e place. Ça va être un match, ça va être un combat absolument incroyable pour ce top 6, puisqu'entre la 3e et la 8e place, la 8e place qui est occupée par le Stade Français, il y a seulement 6 points. 6 points, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça va être intéressant. Si on peut penser que Clermont et Toulouse vont se qualifier, le reste, il va y avoir la baston. Et Montpellier et Toulon sont pas si loin derrière. Donc ce sera à suivre. La Pro D2 qui nous intéresse aussi, ce sera malheureusement en repos aussi ce week-end. On va pouvoir se rattraper avec le 6 Nations. Remarque, il y a un beau Irlande-France qui nous attend dimanche.
L'Écosse-Pays de Galles aussi.
Oui, il y a beaucoup de matchs qui vont être sympas à suivre ce week-end, dont Irlande-France. Mais pas de Pro D2. Vu que, franchement, oui.
Un petit peu d'entrain là.
Si. L'Irlande est quand même, franchement, même Maxime Brossard qui les adore le reconnaîtra. Ouais. L'Irlande est un petit peu décevant depuis le début du 6 Nations.
On va essayer de marquer 3 points sur une pénalité. Il y a Coraline qui veut la parole.
Mais pour gagner.
Je
me l'étais noté entre deux lignes 27-17 contre Agen. Voilà.
À la maison, le match de la peur.
C'est important de citer quand même.
Bravo Pau. Voilà.
Ça fait du bien pour le moral et pour.
La Pro D2, on va pas trop en parler parce que Maxime Brossard l'a déjà remarquablement fait. Bon voilà, Colomiers est redevenu 15e. Par contre, Fédéral Lune, on peut en parler.
Ah oui.
Blagnac dans la poule 3 qui s'est imposé facilement à Castanet. 29 à 3, c'est sympa.
Incroyable, oui, magnifique.
29 à 3, on peut pas appeler ça incroyable.
C'est un bonus offensif, c'était incroyable, un feu d'artifice. Oui,
Blagnac est toujours deuxième, la première place, à mon avis, on l'aura pas, mais la troisième non plus, on l'aura pas, ce sera deuxième, et puis on pourra jouer les barrages. Il joue ce week-end face à Nîmes, quatrième, dimanche à 14h30, dans le cadre de la 19e journée de Fédéral 1 et en poule 2. Deux petits mots pour dire que Albi s'est largement imposé face à Anglais 52-0. Eux, ils vont finir premier a priori de la poule 3, alors que Tarbes qui est troisième va peut-être avoir un peu de mal à être dans les deux premières places. C'est tout pour le rugby à 15, mais un petit mot de rugby à 13, puisque c'était notre invité la semaine dernière, le Théo, qui s'est imposé en Angleterre à Bradford 14-0, et là c'est la grosse affiche qui les attend ce week-end face à Toronto qui est premier, qui a gagné aussi. Le Théo qui est quatrième, troisième succès consécutif. Le match, ce sera samedi à 15h30. Si vous n'avez rien d'autre à faire, franchement, je pense que c'est le match
Ernest
à louper, quoi.
Ernest Vallon, et justement, écoutez bien Radio Présence cette semaine, il y aura deux places à gagner pour ce match entre le Toulouse Olympique, le Théo et Toronto.
Si c'est pas bien fait,
c'est
quand même. C'est incroyable. On ne s'est rien dit avant pourtant.
Et exactement.
C'est ça qui est fou.
Nous sommes des professionnels.
Parlons ballon rond un petit peu.
Exactement, le TFC.
Le TFC qui ne va pas bien du tout. Bon, on en parlera encore plus tout à l'heure. 5-1 face à Lyon ce week-end et qui va jouer le match de la peur, parce que franchement, là, on peut le qualifier de la sorte. Dimanche à 15h, face à Guingamp au Stadium, où on a pu gagner depuis fin septembre, si je ne dis pas de bêtises.
Fin août.
8 points d'avance sur la 18e place, 9 points d'avance sur le 20e, donc on n'est vraiment pas à l'abri de jouer le maintien jusqu'à la fin. Un tout petit mot de national, parce qu'il faut le dire, Rodez va vraiment bien. Ouais. Rodez a encore gagné sur la pelouse du 3e Le Mans. Ils se sont donné 8 points d'avance. Les deux premiers montent en Ligue 2. Donc Rodez est très bien parti.
Et le 3e fait barrage. Et pour l'instant, c'est contre Sochaux, donc il va avoir un Rodez-Sochaux.
Rodez ira directement et on aura
Un
club.
Il faudra le commenter en live. On peut pas faire autrement.
Voilà, à 10 matchs de la fin, 8 points d'avance sur le 3e, dont 6 matchs à domicile pour Rodez. Franchement, c'est très très bien parti. Ça peut que faire plaisir de voir un petit Rodez en Ligue 2 l'an prochain.
Oui, le déplacement sera court pour moi pour aller voir Sochaux si on reste en Ligue 2.
Si on reste en Ligue 2, à mon avis, il va y avoir une petite inversion.
Ça sent l'ascenseur.
Voilà, un mot de cyclisme pour dire aussi que notre Tarnais Lilian Calmejane s'est imposé, a remporté une belle course, la classique de l'Ardèche, c'était samedi dernier. Et un petit mot aussi de notre Toulousain Anthony Pérez qui a animé le lendemain la Drôme classique, mais a fini 11e.
Cycliste qu'on va en avoir en invité la semaine prochaine, Michel Caillot sera l'invité, le président de la Fédération française de cyclisme sur Radio Présence.
Et encore une fois, on ne s'est rien dit.
C'est fantastique.
C'est incroyable. Handball, on va jouer la 17e journée mercredi à 20h. Dunkerque reçoit Toulouse, donc les Phoenix qui vont aller à Dunkerque. Ils sont 10e, les Phoenix. Ils ont gagné face à Cesson Rennes 36 à 26.
Il le fallait absolument.
La semaine dernière, c'est très important, effectivement, comme victoire. Voilà, ça va. À peu près pour le
tout
Phoenix.
Va bien.
Ça va à peu près pour le Phoenix. En hockey, il faut parler de hockey quand même, parce qu'ils ont explosé Chalon au match retour, les Belugas 6-0, ce qui fait 13-3 sur l'ensemble des deux matchs en 8e de finale. Donc qualifiés facilement pour les quarts de finale. Et là, ils vont jouer à Roanne samedi à 19h. Un match qui peut être piégeux.
Après, ils auront l'avantage de la glace pour le retour. Je suis confiant là. Les Belugas, je les sens très solides.
Au moins la demi, si ce n'est plus. Ouais. On espère la remonter. Et puis, on peut pas terminer cet agenda sans parler du volleyball. Malheureusement, il n'y a pas de match ce week-end. Donc voilà, évidemment, là pour le coup, sur l'agenda, on n'a pas été
pas
très très bon.
Mais on peut leur dire que malheureusement...
Voilà, le seul truc qu'on peut dire, malheureusement, c'est qu'ils ont perdu 3-7-0 à Chaumont la semaine dernière. Bon,
le week-end dernier.
Le week-end dernier, on peut passer à autre chose. Voilà.
On en parlera tout à l'heure.
Tout ça pour dire que les Spacers sont 10e sur 13 toujours, donc a priori il n'y a pas encore trop de risques pour la descente.
Et il n'y en aura pas d'ailleurs.
Je suis bête, cette année il n'y a pas de descente.
Merci Lucas, nous on passe tout de suite au débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
On en a parlé un tout petit peu, claqué 5-1 à Lyon hier, enchaînant un 6e match de suite de 100 victoires en Ligue 1. Le TFC se rapproche de plus en plus de la zone rouge, une zone qu'il a touchée ces dernières saisons, se maintenant miraculeusement il y a 3 ans, et se maintenant en barrage l'année dernière. Messieurs, vous avez l'habitude, on ne répond uniquement que par oui ou par non et on débat ensuite. Le Toulouse Football Club mérite tout simplement-il de descendre? Lucas Serdic.
Ça commence à devenir oui. Hein.
Oui.
Ça commence.
Maxime Brossard.
Non.
Et Mehdi Guillonot.
Oui, comme 10 autres équipes en Ligue 1.
Lesquelles?
Allez,
c'est parti.
Interro surprise.
Dijon, Caen, Guingamp,
Paris,
Bordeaux. Il peut y en avoir Nantes.
Amiens,
exactement. Toutes celles-là.
Plus sérieusement, sur le TFC, il mérite vraiment, à force de jouer avec le feu,
se brûle. Quoi. Parce qu'effectivement, il y a des équipes qui n'ont pas forcément le niveau, mais des équipes qui déçoivent depuis autant d'années et qui donnent l'impression de ne jamais retenir un petit peu les leçons du passé. Il n'y en a pas 36. Pour moi, il n'y a que le TFC.
Et on le rappelle, il y a des équipes, malheureusement, des équipes comme Ajaccio, Nancy, Metz, Sochaux, on peut en parler. À force de jouer le maintien, c'est tombé. C'est ce qui va arriver au TFC si ça continue comme ça. Il n'y a aucun projet, il n'y a rien.
C'est ce qui pourrait arriver au TFC. On n'en est pas encore là parce qu'on
l'espère pas, bien évidemment.
Il y a encore 8 points d'avance, mais le TFC a la chance de tomber encore dans une année extrêmement faible. Ils ont le même nombre de points que l'année dernière, où l'année dernière, ils étaient relégables ou barragistes à cette époque-là, donc dans le fond du classement. Mais cette année, ils ont 8 points d'avance sur le barragiste, parce que les équipes derrière sont encore plus faibles qu'eux. Donc ça, c'est... Moi, je trouve ça honnêtement très, 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 très inquiétant. Je ne sais absolument pas où va ce club.
Maxime Brossard, vous avez dit non.
Moi, j'ai dit non, mais inquiet, oui, mais comme au début de l'émission, Chauvin, quoi. J'ai pas envie que Toulouse arrive en Ligue 2, quoi. Donc,
ah, mais la question, c'était pas avez-vous envie, c'était mérite-t-il.
Non, mais je dis non parce que aucun club vraiment mérite de descendre. Je pense quand même les joueurs, ils doivent être conscients quand même de la situation du club. Je pense qu'ils sont pas forcément heureux de se ramasser des pelles tous les week-ends, de jouer dans un stade vide. Voilà, c'est pas la folie, quoi. Donc, je pense que non, on mérite pas de descendre. Après, c'est sûr qu'au sur l'ensemble du parcours et sur le fait que ça revient chaque année un peu comme une ritournelle à chaque fois le TFC qui est en galère, peut-être que au bout d'un moment le couperet va tomber, mais c'est dommage quand même.
Mehdi Guillonot.
Et c'est peut-être même encore pire cette année parce qu'en début de saison on y a cru, ça jouait plutôt correctement en début d'année.
C'est vrai que le mois d'août était très
c'est
correct.
C'est ça, on y a tous cru, donc ça veut dire que l'espoir n'a pas duré longtemps, mais il y a eu cet espoir-là. Et ben, la saison, elle est encore pire. Et justement, tu parlais de mérite de descendre, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, parce que il y a eu plein d'avertissements pour les dirigeants, pour ce club de
17e en 2015, exactement. 17e en 2016, 18e en 2018, c'est tout récent.
Le barrage de l'année dernière.
Bord, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il va falloir pour que les gens réagissent? Ben, est-ce que ce serait pas justement une descente dans Ligue 2?
Lucas Erdic, la faute à qui? Au président, à l'entraîneur, aux joueurs, à la ville, à la région, la faute à qui?
Aux dirigeants, malheureusement, je pense, parce que voilà, les joueurs. Tout à l'heure, Maxime disait qu'aucune équipe ne mérite de descendre. Je suis d'accord, mais peut-être qu'un club mérite de descendre dans son ensemble. On l'a vu en début d'année. Effectivement, il y avait des joueurs qui apportaient quelque chose, qui étaient bons. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Est-ce qu'ils sont pas assez stimulés par leurs dirigeants? Si on leur dit, les gars, vous êtes au milieu de tableau, c'est bien. Bon bah d'accord, ok, bon on se repose, alors tranquille, c'est fini, la saison est terminée, on a fait 5-6 bons matchs, après là on va rentrer dans un petit train-train et au final ça va passer. Si on leur met pas un coup de pied au cul quand on gagne pas 10 matchs d'affilée à domicile, bon,
ce qui est record du club, hein, d'ailleurs.
Bon bah d'accord les gars, bah, après tout c'est toléré, je veux dire, il n'y a pas de problème, on sera encore en Ligue 1 l'année prochaine, vous aurez votre salaire, tout va bien.
C'est le manque de projet, d'ambition, Maxime Brossard, mais qui après, fait défaut à Toulouse.
Oui, je pense. De toute façon, les arguments de Mehdi et Lucas, ils sont excellents. Enfin, je veux dire, c'est quasiment impossible à contrer. Mais moi, je maintiens mon nom parce que je m'adresse à vous, Jean. Vous savez quelque chose avec Sochaux, quoi. Je veux dire, si le club descend, est-ce que ça va pas être la fin du TFC? Est-ce que ça va pas être un gros coup de massue? Et finalement, est-ce que Sadran qui donne pas mal de temps et d'argent, ben voilà, il va pas se dire bon, ben là, au bout d'un moment, ça va, quoi. En plus, si personne me soutient,
on trouve des exemples évidemment de clubs. Ouais. Qui ne remonteront jamais peut-être,
ah,
qui galèrent, mais on trouve aussi des exemples de clubs qui ont
Metz,
bien rebondi,
Strasbourg.
Monaco, Strasbourg, effectivement, ouais. Guingamp, il y en a quelques, Saint-Etienne qui a fini par revenir.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est par rapport à la culture foot de ces clubs, quoi. Je pense à des clubs comme Strasbourg, tout ça, c'est des régions quand même qui vibrent foot. Je trouve que Toulouse, j'ai pas cette impression, moi, j'ai pas sensation. Quoi.
Le problème, c'est le rugby alors?
Mais non, c'est pas le rugby, non, mais.
Remontés, le TFC.
Ça a toujours été comme ça. Quand le rugby marche, le foot marche.
Ils sont bien remontés, le TFC. Ça correspond, ça a correspondu, oui, à une époque assez sympa, oui, au début des années 2000, avec les Pichoun, voilà, il y a eu quelque chose. Donc dans ce club, il se passe quelque chose. Il y a une vie, mais ça vient aussi de.
Elle est un peu monotone la vie quand même.
Ouais, voilà. Mais moi, j'ai peur de ça.
Parce qu'ils sont tranquilles. Mais bon, si jamais ils tombent, peut-être Sadran, on le sait tous, qu'il est un petit peu fatigué, qu'il passe la main, qu'il laisse de plus en plus les autres faire à sa place. Bon, bah, au bout d'un moment, s'il descend et qu'il a plus aucun intérêt, il va peut-être passer la main et il se passera autre chose.
Justement, tu parlais, mais il manque une figure dans ce club. Il manque une figure. Le seul moment où il s'est passé quelque chose, où on nous a raconté une histoire, où il y avait du monde au stade, et Dieu sait que j'ai beaucoup de mal avec lui, mais c'est Pascal Duprat. Il nous a raconté quelque chose, il nous a raconté une histoire, et bien il y avait 25 000 personnes au stadium tous les week-ends.
Mais il y avait lui qui croyait.
Et ça se passe comme ça, en général, dans les clubs de foot et pour les supporters. Ouais. Il faut leur raconter une histoire. Et à Toulouse, on ne leur raconte rien, il n'y a pas de figure, les dirigeants, il n'y a pas de grosse figure.
Est-ce qu'il ne manque pas un dirigeant à l'Olympique Lyonnais? On voit Jean-Michel Aulas toutes les semaines. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi, on le voit toutes les semaines. Avant son décès, Nicolas, on le voyait à Montpellier toutes les semaines. Il y a toujours des figures.
C'est l'éternel problème du TFC et d'Olivier Sadran qui n'a toujours pas compris que c'était dans l'intérêt de son club de s'exprimer,
d'incarner. Il peut laisser le faire à un directeur sportif, sauf que ça a été plus ou moins fait en début d'année avec Panchi Seriex, mais qui n'a pas ce côté-là à s'exprimer dans la place, s'il ne veut pas le faire, qu'il délègue à quelqu'un d'autre, sauf que par exemple Jean-François Soucas, qui est son
pareil,
ne le fait pas.
Ils sont pareils, donc ils détestent les médias.
C'est ça. Il faudrait quelqu'un qui s'exprime plus, voilà, qui raconte une histoire au public. Et pour en revenir au public, je pense que c'est au rugby comme au foot, c'est pareil à Toulouse.
Oui, oui.
Le sport à Toulouse, il suffit qu'il y ait des résultats,
sûr,
le stade est plein.
Après, c'est vrai que c'est par rapport au foot, quoi. J'ai toujours trouvé l'impression qu'il y avait quand même un peu moins d'engouement populaire, et c'est ça qui me fait un peu peur.
Parce qu'il y a toujours aussi moins de résultats.
Ouais. Ouais, ouais.
Et messieurs, je me tourne vers vous, Lucas Erdic, si vous dites que le TFC mérite de descendre. Si on prend uniquement le sportif, l'effectif est quand même de qualité.
Évidemment, l'effectif est de qualité, mais Monaco, ça les a pas empêchés d'être 19e quasiment toute la saison jusque-là, parce que si tu additionnes des joueurs, mais qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de figure, pour reprendre les mots de Mehdi, ça ne sert pas à grand-chose. Ils sont là, mais ils ne savent pas pourquoi. On leur a vendu quelque chose, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on leur a vendu, qu'est-ce qu'on leur a dit, venez chez nous, Toulouse c'est sympa, et on ne vous embêtera pas si vous terminez 8e, on sera même content. Bah, c'est presque ça, hein, que les... et en plus de ça, on attire ce genre de joueurs-là au final, parce que si on montre aucune ambition, ce n'est pas les joueurs avec de l'ambition qui vont venir. Quoi. Le seul qui a un gros niveau et qui est là, et qui sait pourquoi il est là, c'est Max Alain Gradel.
Et d'ailleurs, sans ses stats, donc mais... sans les stats, les buts, les passes décisives, tout le monde est dernier. Hein, c'est vrai
il est là parce qu'il savait qu'il serait le patron sans forcer de cette équipe, et c'est ce qu'il voulait. Bon, bah, tant mieux pour lui, mais bon, ça fait pas avancer le Schmilblick.
Mais Di Giono, juste pour terminer, est-ce que le point positif, sans faire offense à ces joueurs-là, est qu'en fin de saison, le TFC a 9 joueurs en fin de contrat ? Est-ce que ça ne va pas obliger à refaire une revue d'effectifs, à changer, mettre un coup de pied dans la fourmilière pour changer tout ça?
J'ai envie de dire presque encore, parce qu'en début de saison dernière, ça a été un petit peu le cas. L'effectif a été pas mal renouvelé, il y a pas mal de nouveaux joueurs dans cette équipe-là. Je ne suis pas sûr que financièrement, le club ait les capacités aussi de refaire un mercato de cette envergure-là.
Ils vont nous ressortir plein de joueurs de l'équipe de jeunes.
Alors là, moi, j'ai un espoir.
Ils commencent à les mettre.
J'ai un espoir, moi, c'est-à-dire que je vais assez souvent voir les équipes de jeunes. Et notamment ce week-end, j'ai été voir la 2 du TFC. Il y a quand même un niveau chez les jeunes qu'il n'y avait pas avant. Ils sont qualifiés en Gambardella, ils sont en quart de finale.
6-0,
6-0 face au Havre, qui est un des meilleurs.
Bon, le problème du TFC de Sadran, c'est que son seul objectif, ça va être de les vendre très cher et très vite. Comme
Issa Diop, comme Alban Lafont.
Todibo, par exemple, lui, il avait vite compris qu'il fallait aller voir ailleurs. Et à mon avis, ce sera ça la suite.
Rendez-vous pour le TFC ce dimanche à 15h pour une rencontre, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'agenda, une rencontre de la peur contre le dernier Guingamp, on espère pour les joueurs, pour les supporters et pour la ville, une victoire du TFC à domicile, une première depuis fin août. Merci messieurs, nous on se retrouve dans un peu moins de 4 minutes pour l'invité, pour notre interview. À tout de suite. C'était Panic at the Disco, I Hope, sur Radio Présence. Oh,
non, mais c'est pas vrai, mais c'était parfait.
Magnifique.
Vous avez fait anglais LV1, non?
Sportez-vous bien. L'invité.
Avant de partir sur l'invité.
At the Disco.
It's fantastic.
Ah, le The.
Mon accent is perfect. Hein.
Is perfect. Very perfect.
Bon, messieurs, notre invité est grand, il est très grand et c'est idéal pour son sport, le volley. Jordan Corteggiani a rejoint les Spacers Toulouse cet été, passé par Chaumont, Ajaccio ou encore l'Italie. Le pointu des Spacers Toulouse apporte toute son expérience au club de la Ville Rose. Jordan, rebonsoir.
Bonsoir.
On vient de le dire, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes joueur de volley depuis longtemps, une grande expérience et vous êtes au poste de pointu. Alors, tout simplement, c'est où sur le terrain? À quoi consiste ce poste?
Alors, moi, j'aime à l'appeler le cerveau de l'équipe, ce qui n'est pas le cas.
Humblement.
Je suis un peu l'attaquant prioritaire, en fait. On peut comparer un numéro 9 au football, celui qui est censé finir les actions et qui est généralement score le plus de points dans l'équipe. Mmh. C'est moi, mon rôle comparé aux autres, c'est que moi, je dois me focaliser essentiellement sur l'attaque. Je suis là pour mettre les points.
Si on doit comparer avec la figure un peu du volleyball français, Erwin Ngapet, c'est le même,
c'est
même poste.
Ce n'est pas le même poste.
D'accord.
Mais avec la figure montante qui est Stéphane Boyer, en l'occurrence, c'est le même poste. Dans une équipe, on va dire on dit que la diagonale la plus importante est la diagonale passeur pointu. Donc c'est le gros attaquant des équipes. Donc c'est celui généralement qui est qu'on recrute le premier, ou alors en tout cas qu'on essaye de
faire venir très vite.
De faire venir, ouais.
Pour nos auditeurs et pour ceux qui ne connaissent pas trop le volley, en deux, trois règles, c'est quoi? C'est un filet au milieu et il faut marquer de l'autre côté, quoi. Faut faire toucher le ballon dans la zone de l'autre côté.
Voilà, c'est du 6 contre 6 déjà, donc c'est important. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est de poser déjà que le ballon touche le sol de l'autre côté du terrain. Dans un premier temps, ça fait un point. Que dire,
ou
ouais, il y a
faire
trois
fauter,
passes.
Quoi. Ou de faire fauter. Faute.
Voilà, et en fait, c'est ça. En fait, c'est assez beau à voir quand on commence à le comprendre aussi, parce qu'en fait, c'est ultra spectaculaire. Il y a plusieurs façons de faire les points. On peut faire des points directs, on peut faire des points avec les mains adverses. C'est un sport justement où on utilise l'adversaire. C'est un sport où c'est ultra stratégique.
Glisser la balle dans la boîte aux lettres. Moi, j'avais bien aimé cette petite expression.
En l'occurrence, c'est point pour l'équipe adverse quand c'est boîte aux lettres.
Ah ouais?
Quand
on arrive à mettre la balle entre
en fait, on appelle le contreur en face. Le contreur, en fait, monte au bloc. Donc, le but du contreur, c'est d'essayer d'empêcher le ballon de passer et donc de faire une sorte de mur. Et la boîte aux lettres, ce qu'on appelle, c'est quand la balle passe entre les mains et le filet. Donc, passe dans la boîte aux lettres. Et c'est point, en l'occurrence, pour l'attaquant dans ce...
Vous avez 27 ans, on peut dire votre âge, c'est jeune, mais vous avez quand même une très grande expérience. Ça fait un moment que vous êtes dans le circuit. Vous avez gagné la Coupe de France avec le Gazélec Ajaccio en 2016 et vous êtes tout simplement champion de France avec Chaumont, que vous avez affronté ce week-end en 2017. Ce sont les meilleurs souvenirs, même s'il n'y avait pas un temps de jeu énorme.
Alors en fait, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, j'ai beaucoup d'expérience dans le volleyball, mais j'ai, en tant que premier pointu en première division, c'est ma première saison. Donc le club a fait un petit peu un pari sur moi. Et donc, de ce fait, j'ai pas énormément de matchs de première division à mon actif, même si j'ai quand même joué dans ces deux clubs, notamment quelques parties, et je suis rentré plusieurs fois. D'ailleurs, Chaumont, pour la petite anecdote, c'était la première fois que je revenais jouer là-bas, dans la salle, avec un public qui est très réputé au niveau du volley, qui soutient énormément et avec une année fantastique. Donc c'était une belle émotion.
Un bel accueil.
Ouais, énorme. Ouais. Mais en fait, ce qui est un peu rigolo, c'est que cette année, en fait, pour la petite anecdote, on est trois joueurs de cet effectif à Toulouse. Et la deuxième anecdote, c'est que la finale s'est gagnée contre Toulouse.
Ah oui.
Donc c'était il y a deux ans. Donc ça a été une belle fête pour nous trois de revenir ici. Et c'était vraiment, vraiment sympa.
L'équipe de France, c'est un objectif. Vous avez fait l'équipe de France A', donc on va dire, grosso modo, c'est l'équipe réserve de l'équipe de France. C'est un objectif, les A? C'est loin? C'est dans un coin de la tête?
J'ai énormément d'amis qui sont en équipe A. J'ai beaucoup de joueurs de ma génération. Maintenant, sur mon poste, il y a deux joueurs qui ont 20 ans et 21 ans qui sont en train d'éclater, littéralement, qui sont deux pépites. En toute objectivité, je pense que je suis actuellement en équipe 2, donc juste en dessous. Non, l'équipe A, je la touche pas forcément du doigt. Alors, je suis toujours là s'il y a besoin, mais je suis assez conscient que ça va être très compliqué. C'est deux gros joueurs qui sont en train d'éclater et qui sont meilleurs que moi, tout simplement.
Justement, l'équipe de France et le niveau du volley en France, le niveau du volley français, le niveau du volley de l'équipe de France sur la scène mondiale, on le situe à peu près où ?
Je pense que le volley est en constante progression. On a un niveau, au niveau déjà mondial, on a une équipe de France qui ces dernières années quand même glane plusieurs trophées, ouais. comme vous l'avez dit, marche plutôt bien. Ils ont fait deuxième de la Ligue mondiale cet été en faisant une très grosse compétition. Ils l'avaient déjà remporté deux fois.
2015-2017.
Ouais. On pêche un petit peu sur les compétitions internationales parce que c'est voilà, les étés sont très remplis pour les joueurs. C'est des joueurs qui enchaînent directement à la fin des saisons avec les équipes de France. Puis ensuite, ils retournent avec les clubs. Donc, c'est des gros étés. Il y a la Ligue mondiale, comme on en a parlé un peu plus tôt en privé, qui prend une grosse partie de l'été. Donc, il fausse un petit peu les préparations, avec notamment un effectif qui doit être gardé. Maintenant, il y a des règles au niveau international. Donc, une grosse partie de l'effectif doit se faire tout l'été. Donc, c'est assez compliqué. Mais on a une équipe qui tourne plutôt bien, qui est capable de tout faire. En l'occurrence, ils perdent en finale à la maison contre une équipe qui... La Russie qui a joué à un niveau absolument incroyable, donc sans regret.
Justement, c'est le Brésil, la Pologne, l'Italie, France, Russie qui dominent le volley mondial ?
Ouais, c'est ces équipes-là qui dominent de manière générale.
Si on marche bien en sélection, en club, c'est un peu moins vrai quand même. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un niveau un petit peu en dessous ?
Tu parles au niveau des clubs français ? Tout simplement que je dirais peut-être 85% de notre effectif de l'équipe de France joue à l'étranger.
En Italie notamment ?
En Italie, en Pologne, on a un joueur qui était en Chine. Malheureusement, le championnat de France n'attire pas forcément les meilleurs joueurs.
C'est un centre de formation un peu.
Je dirais pas que c'est un centre de formation, mais tout simplement, déjà, il y a des budgets qu'il n'y a pas ailleurs.
Voilà, c'est une question de culture et donc de budget.
On est un sport qui reste modeste, même si on n'a pas à se plaindre, on vit notre sport, mais il y a des grosses écuries qui arrivent avec des arguments qu'on ne peut pas contrer, et notamment les grosses écuries en Italie, en Pologne.
C'est culturel ?
C'est culturel, ça je
ne
sais pas.
Vous êtes passé par l'Italie, justement. C'est un autre monde, le volley italien par rapport en France.
C'est encore plus vrai cette année parce qu'ils ont réussi à faire venir des joueurs qui sont les meilleurs au niveau mondial à leur poste et à faire un championnat vraiment impressionnant. Les meilleurs joueurs du monde rêvent de jouer en Italie, donc ils y vont. C'est un pays qui a les moyens aussi de faire venir ses joueurs. Donc voilà, faut savoir que c'est pas professionnel là-bas. C'est quand on est joueur de volleyball, on n'est pas salarié, mais c'est beaucoup de sociétés, beaucoup de. Alors le risque aussi, c'est que ça peut-être claquer d'un moment à l'autre.
C'est des primes en fait. C'est des primes,
contrats d'image.
C'est des contrats en fait. C'est des associations en fait. Du coup, il y a énormément d'argent qui peut être brassé, mais ça peut aussi tomber d'un jour au lendemain si un dirigeant décide de plus mettre dessous ou si. Donc Mais oui, c'est le plus beau championnat parce que toutes les équipes sont relevées. Il y a des gros joueurs à toutes les.
Ouais, c'est historique quoi.
Les Spacers ont joué la Ligue des Champions en 2018 après avoir été donc vice-champion de France en 2017. Justement, les Spacers que vous avez rejoints cet été dans un groupe qui est extrêmement jeune, vous êtes presque un ancien, presque un papy dans cet effectif.
Papy.
Alors un papy, je ne vous permets pas. Mais...
T'as à t'en prendre une, toi.
Effectivement, c'est un groupe très jeune. Mais ça, après, c'est une politique du club de.
Ça a toujours été ça,
faire, voilà, d'essayer de faire confiance et de donner la chance à des jeunes. Donc on peut dire moi-même que sur mon poste je suis dans les jeunes, parce que 27 ans aussi ça reste.
Oh oui, je dis pas que mais jeune. Je comparais mais, par rapport à l'effectif.
Non mais justement c'est pour rebondir un peu là-dessus, c'est que voilà c'est un club qui a toujours fait confiance à des jeunes, qui a un des budgets les plus bas du championnat et donc du coup qui n'hésite pas à faire confiance à des jeunes et il y en a beaucoup qui sont sortis.
Ça fonctionne par cycle un petit peu, non ?
Oui c'est ça. Et malheureusement après ils sont attirés par ils sont surtout rattrapé par les clubs étrangers qui mettent la main dessus et Toulouse peut plus ensuite
comme un peu au football quoi.
Voilà, c'est un peu ça. Pareil.
Maxime Brossard.
On parlait de retraite tout à l'heure. On joue jusqu'à quel âge au volley ? On peut jouer jusqu'à quel âge ?
Au volley, ça va de plus en plus loin maintenant, je dirais 35 ans.
Ouais,
34-35 ans. Après, là où je disais que c'était un peu différent selon les sports, c'est qu'au niveau du volley, il faut utiliser le saut, la détente. Il y a quand même. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est.
Ça dépend des postes,
l'explosivité. Il y a énormément d'explosivité.
C'est les articulations des jeux, voilà. Tout ça qui charge.
Il y a des postes comme le passeur, qui est un peu moins sollicité, et le libéro,
receveur,
libéro
ouais.
qui mmh. voilà enfin, ouais. libéro c'est un poste où le il joue que derrière, donc il ne saute pas, il et là il y a en championnat de France on a Hubert Hainaut qui est une référence au volleyball et qui joue encore à 38 ans je crois maintenant.
Un mot sur le championnat de France, un championnat à 13, le Paris tout simplement qui avait été relégué pour des histoires de matchs truqués, si c'était ça.
Ouais non alors c'est pas des matchs truqués, c'est que ils ont été rattrapés par la gendarmerie financière, disons. Il y a des comptes qui n'étaient pas tout à fait, fait clairs. Et du coup, ils ont eu une relégation administrative dans un premier temps et du coup sportive.
Donc, vu qu'il n'y a pas de relégation, comment on se motive, comment on a envie d'aller sur le terrain alors qu'il y a Toulouse est 10e sur 13, peut jouer le maintien s'il y avait des descentes. Et là, Toulouse est assuré de rester, tant mieux d'ailleurs, mais Toulouse est assuré de rester en Ligue en Pro A, comment on se motive par rapport à ça?
On se motive déjà parce qu'on a une équipe jeune avec des joueurs qui jouent pour la première fois, donc on a envie de se montrer. On a aussi une équipe qui, sur laquelle on n'aurait pas forcément parié en début de saison. Beaucoup de clubs nous voyaient peut-être vraiment plus bas. Il faut savoir qu'on tournait super bien, qu'on a une petite phase difficile. Là, on a enchaîné une cinquième défaite malheureusement. Mais voilà, on a quand même battu des très grosses équipes, notamment à la maison où on est l'une des meilleures équipes du championnat à domicile. On a réussi, Chaumont, on les avait battus 3-0 à la maison. On a battu Rennes il y a quelques temps aussi à la maison, qui était première jusque-là. Et il y a les playoffs.
Les playoffs,
les 8 premières équipes. Et c'est ça la motivation, tout simplement.
Justement, comment vous jugez le début de saison des Spacers? Il est correct? On le rappelle, les Spacers avaient fini dernier ou avaient fait une très mauvaise saison l'année dernière.
Alors ça a été. Voilà, c'était pas forcément. Ouais, c'était une transition. Malheureusement, le coach est parti. Du coup, l'adjoint qui est devenu maintenant coach a pris le relais. C'était après une saison très forte, avec une dynamique, comme on a dit, des cycles, avec beaucoup de joueurs qui sont partis, donc besoin de refaire une équipe. Le coach, c'était la première saison aussi en tant que coach principal d'une équipe professionnelle. Donc, et le marché aussi a évolué très vite. Toulouse était un peu dans l'engouement. C'était la première fois qu'il y avait une finale. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient au niveau aussi du recrutement. Et voilà, la dynamique après.
Il y avait la Ligue des Champions en plus.
La Ligue des Champions qui les a énormément fatigués. Et ils n'avaient pas le niveau clairement pour prétendre à quelque chose. Donc voilà.
Il y a Coupe de France ce week-end. Le Phoenix. Les Spacers sont malheureusement éliminés. Prochain rendez-vous le 15 mars au Palais des Sports contre Poitiers. Bien évidemment, c'est un adversaire qu'il faut battre pour essayer d'aller titiller les playoffs.
C'est clairement un adversaire qu'il faut battre. On a, ils sont dans une phase difficile aussi, donc il va falloir qu'on réalise un gros match à la maison. On a à cœur de le faire, donc voilà.
Merci beaucoup Jordan, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, on se retrouve nous la semaine prochaine. Retrouvez dès 7h Rémi Souloumiak, Isabelle Loenay et Corinne Saint-Félix. Bonne semaine avec Radio Présence, à lundi.
Au revoir.
Retrouvez toute l'actualité de l'Église régionale sur le site internet de Présence en tapant www.radioprésence.com.